France Inter.
Un télégramme ce matin, une valise pour deux jours, le cachet d'Orly sur passeport, 3 heures sans histoire avec Air France, et elle débarque à Ciampino avec l'air de Paris sur son visage et le vent de Rome dans les cheveux. Ce week-end qu'on destinait jadis à Fontainebleau, naguère à Deauville, on le donne à Rome aujourd'hui. 2000 kilomètres au lieu de 200. L'attrait pour deux jours des nouveaux horizons. Le miracle d'aujourd'hui.
Allez, premier jour des vacances. Peut-être que pour les fêtes, vous vous êtes fait le cadeau d'un voyage à Rome. Notre archive des actualités, elle date de 1956. 4 ans plus tard, la Dolce Vita. Marcello Mastroianni rejoint Anita Ekberg dans La Fontaine de Trevi. Si vous voulez vous en approcher de La Fontaine, hein, profiter des derniers jours de gratuité, c'est le dernier Noël où faire un vœu, pile devant le bassin, ne vous coûtera pas plus cher que la pièce que vous choisirez d'y jeter. En février, Rome passera à la tarification différenciée. Oui, c'est de l'écho, hein. On l'a appris hier soir. Ce sera gratuit pour les Romains et payant pour les autres. Pour financer les monuments et les musées, les étrangers qui paient plus cher que les nationaux, c'est une tendance mondiale. Ça se passe au Grand Musée du Caire, comme sur le site d'Angkor au Cambodge. Chez nous, le billet du Louvre coûte 22 euros, mais à partir de janvier, dans 10 jours, pour tous les non-européens, ce sera 10 euros de plus. Même principe à l'Opéra Garnier, à la Sainte-Chapelle, au château de Versailles et au château de Chambord. Et le tarif en fonction de la nationalité devrait même s'étendre en 2027. Il y a une exception de taille, c'est la visite à Notre-Dame. Elle n'a pas de prix, l'Église de France ne le veut pas, c'est gratuit. Et c'est un vrai débat entre la générosité universaliste dans un lieu de culte et l'état des finances publiques, parce que oui, c'est le contribuable qui paie l'entretien et il coûte cet entretien 2 fois plus cher aujourd'hui qu'avant l'incendie. À Barcelone, la cathédrale de la Sagrada Familia ne s'embarrasse pas. La visite la moins chère coûte 26 euros. Alors peut-être la discussion sera-t-elle rouverte un jour. En attendant, ça me permet de souligner à nouveau que l'Europe est la première destination au monde pour les touristes internationaux et que la France reste numéro 1 sur le podium en nombre de touristes, mais pas en termes de recettes. Les touristes ne dépensent pas assez chez nous pour tirer vraiment profit du flot de voyageurs. Eh bien, c'est l'Espagne qui est la meilleure.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue, nous sommes le 20 décembre et nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour discuter de l'écho comme on la veut et comme on la vit. Et je peux vous dire que le débat sur la visite gratuite ou pas à Notre-Dame a déjà commencé dans le studio. Toute la bande vous salue, Valentin Pérez, Étienne Bertin, Cécile Perrin, David Dibouébla Comics et Thomas Allard à la technique. Ce samedi, le patron de BPI France, la banque publique d'investissement, est notre invité. La désindustrialisation, la dette, Nicolas Dufour, qui est connu pour son franc-parler. Interview vers 9h45. Chine échappe à la suspension de son site. Le Magéco s'intéresse ce matin à l'impact économique de la fast et de l'ultra-fast fashion sur la filière du recyclage textile. Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. On a aussi rendez-vous avec Madame Vioboulot. Bonjour.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Sandrine, ce matin, Sandrine Foulon, ce matin, vous nous parlez d'une nouvelle tendance au travail qui porte un drôle de nom comme un peu toutes ces tendances auxquelles le marketing s'intéresse.
Oui, il s'agit du quit talking. On se filme en train de quitter, démissionner en bon français, et on poste tout ça sur TikTok. Qu'est-ce que ça nous dit du monde du travail? Je vous réponds tout à l'heure.
Quit talking, donc Quitting, on se retrouve juste avant 10h. Mais d'abord, le débat, l'actu la plus chaude, passée au grill et expliquée surtout par nos deux débatteurs. Ce matin, avec moi, Léo Klim du magazine Der Spiegel. Bonjour Léo.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Et Marc Vigneault du quotidien L'Opinion. Salut Marc.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Alors la France n'aura pas de budget de l'État voté avant le 31 décembre. On n'a pas eu de miracle de Noël. Les discussions ont échoué hier. Est-ce que c'est grave ? Que va-t-il se passer maintenant ? Écoutez, je vous propose une chose, on se met les idées au clair.
Je cherche pas soutien, je cherche juste un peu de bienveillance, je cherche à éviter le désordre.
Sébastien Lecornu,
Premier ministre.
Les élections municipales ont lieu au mois de mars. Le monde économique est inquiet. Donc on doit pouvoir y arriver avec un esprit, celui de l'intérêt général.
Une commission mixte paritaire réunit 7 députés et 7 sénateurs. Le RN et LFI ont de toute façon décidé de ne pas donner leur accord.
Alors c'est pas pour les mêmes raisons.
Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National, membre de la commission mixte paritaire.
LFI estime qu'il n'y a pas assez d'argent public et d'impôts. Nous on estime qu'il y a trop de déficits et trop d'impôts.
Le groupe écologiste et social votera contre ce budget.
Cyrielle Châtelain, présidente du groupe Les Écologistes à l'Assemblée nationale.
On a un budget qui ne revient pas sur la question de la justice fiscale et qui entérine des coupes majeures dans la question de l'écologie, que ce soit pour l'insertion par l'activité économique, que ce soit sur toutes les activités associatives comme l'aide alimentaire. Nous refusons de décider finalement quel secteur sera sacrifié.
On était déjà sur le qui-vive.
Patrick Martin.
Dorénavant, on est très inquiet.
Président du MEDEF.
Il ne vous a pas échappé qu'aucune mesure d'économie n'a été prise dans le cadre du PLFSS sur la sécurité sociale et que par voie de conséquence, il va falloir compenser ça sur le projet de loi de finances. Donc on nous avait annoncé, par exemple, la reprise de la baisse des impôts de production, la CVAE, il est question qu'elle soit suspendue. Tout ça mis bout à bout nous rend très inquiets.
Dernière note de conjoncture de l'INSEE, c'est tombé hier. L'acquis de croissance à l'été 2026 est de 1%. Honnêtement, vu les turbulences politiques qu'on vit en France, c'est quand même pas mal.
Échec de la commission mixte paritaire. Il n'y aura donc pas de budget voté avant la fin de l'année.
La suite, maintenant, l'entourage du Premier ministre confirme la présentation dans les prochains jours d'une loi spéciale.
Pourquoi est-ce qu'il faut un budget ? Pour deux raisons.
François Villeroy de Gallo.
La première, c'est que la loi spéciale ne fait aucun choix. Or, nous avons besoin, par exemple, de dépenser plus pour la défense.
Gouverneur de la Banque de France.
Et puis l'autre raison, c'est que la loi spéciale, elle nous conduirait à un déficit nettement supérieur à ce qui est souhaitable. La loi spéciale, c'est une solution de très court terme.
Léo Klim, Marc Vigneault, tiens Marc, je me tourne vers vous, c'est vous le budgétaire de l'équipe aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas eu de miracle ? Pourquoi on n'y est pas arrivé sur le budget de l'État ?
Eh ben, les points de vue politiques étaient trop opposés entre les exigences du PS pour éventuellement se montrer une certaine mansuétude vis-à-vis du budget de l'État et les exigences des LR, surtout au Sénat, qui eux ne voulaient pas, par exemple, assumer la surtaxe d'impôt sur les sociétés pour les très grandes entreprises. Donc chacun a voulu exprimer, montrer ses positions et les points de vue étaient un peu trop irréconciliables. Il y a eu une petite brouille entre les sénateurs et le gouvernement, puisque le gouvernement a accusé les sénateurs de ne pas faire assez d'économies, d'avoir dégradé le déficit dans la copie budgétaire, d'avoir été jusqu'à 5,3%. Vous savez que le gouvernement a fixé une barre à 5%. Une barre à 5%, pourquoi ? Pour être capable de revenir à 3% en 2029. Et pourquoi à 3% en 2029 pour arriver à stabiliser la dette, c'est-à-dire arrêter cette augmentation continue de la dette. C'est à peu près à 3% qu'on arrive à la stabiliser. Et si on n'est pas à 5% cette année, il sera extrêmement difficile de revenir à 3% en 2029.
Vous êtes d'accord avec François Villeroy de Gallo, cette barre de 5%, elle s'impose. Et donc, ça a capoté pour le projet de budget de l'État. Léo Klim, on n'a pas eu de miracle ou on a eu un miracle ? Vous êtes plus...
Oui, moi, je suis un peu plus clément en cette fin d'année. Je ne sais pas pourquoi.
L'esprit de Noël.
Voilà. Moi, j'estime que le miracle de Noël a eu lieu, mais que c'était Noël avant l'heure, avec le budget de la Sécu qui a été voté avec une majorité. C'est quand même assez surprenant vu les conditions de départ. Alors, certes, nous allons... C'est le prix est fort. Hein, nous n'allons pas avoir de réduction de déficit réel. La réforme des retraites passe à la trappe alors qu'elle est nécessaire.
Elle n'est que suspendue.
Alors... pour l'instant, elle est suspendue, mais elle est remise en débat pour les élections 2027. Et les entreprises sont taxées plus. Donc tout ça, c'est pas très bon, c'est vrai. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose comme un début d'apprentissage d'une culture budgétaire, c'est-à-dire d'une culture de responsabilité. Et ça, encore, je dirais, au mois d'octobre, on n'y aurait pas trop cru. Donc, moi, sur le budget de l'État, qui maintenant a échoué dans la commission mixte paritaire, je ne comprends absolument pas pourquoi on ne peut pas refaire la même chose que sur la Sécu. Voilà, c'est comme si on avait une régression comportementale, c'est-à-dire se compenser acquis n'est pas vraiment appris.
Mais parce que Léo, si on faisait exactement la même chose que sur le budget de la Sécu, on se retrouverait à 5,6% de déficit, on remonterait le déficit par rapport au niveau atteint là en fin d'année qui devrait être de 5,4%, et ça serait catastrophique dans le contexte actuel. La France est le seul pays qui n'arrive pas à réduire son déficit quand l'économie va un peu mieux, qu'on n'est pas dans une crise importante et qui a une dette qui va très très vite. Je vous rappelle que la dette a atteint 117% du PIB et que là, dans les prochaines années, elle pourrait monter à 125-130% assez rapidement à ce niveau de déficit. Et c'est l'envolée, la dérivée que les marchés pourraient considérer comme très dangereuse. Et donc, si c'est des compromis qui ne font faire aucune mesure compliquée où on fait croire à la population qu'il ne va rien se passer et on peut faire des économies dans un modèle social qui représente à peu près la moitié des dépenses publiques sans y toucher, eh bien, à mon avis, ces compromis seront encore plus douloureux quand ils seront remis en cause à partir de 2027 où les politiques vont évidemment changer de discours. Tout le monde vous le dit en off, tous les partis vous expliquent. Le PS vous explique qu'il faudra une réforme des retraites en 2027. Vous pouvez toujours faire croire que par la durée de cotisation, ça sera plus facile pour les gens que de passer par l'âge légal de départ. Mais quand on va rentrer dans le détail, les gens vont se rendre compte que les carrières hachées vont, par exemple,
attendez, Marc,
si
vous élargissez trop le débat, là. Il faut qu'on reste sur notre, sur notre miracle de Noël qui a eu lieu ou pas lieu.
Non, mais je suis d'accord avec Marc que, bien sûr, le compromis se fait à un prix élevé. Il coûte aux finances publiques et il est au prix de la dette. Donc, je ne suis pas pour ça. Par contre, je ne vois pas politiquement d'autre chemin que d'apprendre à avoir un comportement raisonnable, de se sentir raisonnable, que ceux qui doivent construire le budget ressentent cette responsabilité. Et ça, on a vu le début de ça. Et par ailleurs, une vraie réduction franche de la dette française, probablement, n'arrivera pas par la politique autrement que s'il y a cet apprentissage qui s'applique plus.
Alors
sinon,
ça
viendra par l'extérieur, ça viendra par les marchés.
Par les marchés.
Ce sera imposé.
Faites-nous juste une petite parenthèse miroir.
Oui.
La coalition, c'est vraiment la politique à l'allemande. Pour
Absolument.
Les politiques budgétaires, comment est-ce que quand on est très opposé, on fait un budget? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des impasses majeures, des renoncements majeurs? Parlez-nous de culture un peu, de politico-économique.
Je pense que la situation française aujourd'hui est beaucoup plus difficile que ce qu'on a en Allemagne. Alors, parce que nous, on sait, c'est la norme, il n'y a jamais de majorité au Parlement. Donc, d'office, et c'est pour ça d'ailleurs que les fameux contrats de coalition mettent des mois, ce que les Français ne comprennent pas, c'est parce que le gros compromis pour toute la législature est effectué au début. Et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est le moment du compromis. La coalition actuelle, entre conservateurs et SPD, c'est, si vous voulez, l'incarnation du compromis. D'une contradiction. Ils viennent, il y a 10 jours, de se mettre d'accord sur, en fait, un maintien du niveau des retraites, essayant de le garder au niveau actuel, au-delà de 2032. Ça a été des couleuvres pour les conservateurs, dont il y a d'ailleurs certains députés qui ont été contre. Et en revanche, les conservateurs ont eu quelques coupes dans le budget 2026 sur les dépenses sociales et des augmentations sur le budget intérieur. Mais voilà, ça c'est...
Mais ils ont quand même toujours cette idée, c'est peut-être ce que Marc me fait des signes. Ouais. Mais je vous donne la parole. Ils ont toujours la même idée de réduire le déficit, dépasser, d'avoir un déficit contenu. C'est peut-être ça la philosophie commune.
Et surtout, Alexandra, arrêtez-moi si je me trompe, Léo, mais je crois qu'en Allemagne, vous n'avez pas le droit de renverser le gouvernement si vous ne présentez pas une coalition alternative.
Absolument.
Et donc, c'est un point assez important. On ne crée pas une culture parlementaire. Vous voyez, là, le PS a réclamé l'abandon du 49-3. Il y a beaucoup de partis qui sont dans la coulisse en train de dire il faut ramener le 49-3 parce que voter un budget ou s'abstenir même sur un budget, ça peut être considéré comme être dans la coalition gouvernementale, donc ça, ce n'est pas possible. Mais par contre, si le gouvernement dégaine le 49-3 et qu'on nous dit, est-ce que vous allez censurer ou pas, on peut ne pas censurer et donc laisser passer le budget. Et vous voyez ce jeu-là...
C'est ahurissant. C'est-à-dire, les mêmes qui demandaient à ce qu'on n'utilise plus le 49-3, maintenant demandent, mais s'il vous plaît, appliquez-nous le 49-3 pour qu'on ne soit pas obligé d'assumer notre responsabilité
donc
budgétaire.
Donc on est en apprentissage, c'est ce que vous disiez.
Moi, je pense que finalement, malheureusement, la construction politique de la Ve République n'est pas adaptée à un Parlement qui sera durablement fragmenté, parce que ce n'est pas après 2027 que ça changera.
Marc Vigneault, on en est pour le budget à la loi spéciale, ça veut dire quoi exactement? Et alors juste, il faut que vous nous fassiez, vous qui aimez calculer, vous nous disiez un peu si ça nous fait faire des économies ou plus de dépenses. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris.
Alors c'est assez compliqué. Il y a le budget de la Sécurité sociale qui a été voté, donc... La partie, s'il y avait eu qu'une loi spéciale et pas de budget de la Sécurité sociale, là pour le coup le déficit aurait beaucoup dérivé parce que les dépenses sociales c'est un peu un guichet ouvert, si vous n'avez pas de disposition pour les freiner, bah, elles augmentent naturellement. Là on n'est plus que sur une loi spéciale pour la partie de budget de l'État. Sur cette,
et ça
sur
fait quoi une loi spéciale?
Alors c'est la reconduction des impôts de cette année et la reconduction de ce qu'on appelle, ce qu'on appelle les services votés, c'est-à-dire en gros on prend les dépenses de cette année sans compter le fait que les prix vont augmenter l'année prochaine et on reconduit ces dépenses. Donc en fait c'est un budget ce qu'on appelle zéro valeur, c'est-à-dire il y a en euros, c'est exactement le même que le budget de cette année. Et donc on pourrait se dire ça fait beaucoup d'économies. Oui, ça fait des économies, mais pas du tout dans les ministères où vous planifiez de faire des économies si vous avez un budget. Par exemple, on veut dépenser, comme l'a dit le gouverneur de la Banque de France, 6,7 milliards de plus pour notre défense. Bah là, vous allez faire zéro sur l'armée. Et par contre, le ministère du Travail, où on vous dit qu'il faut faire des efforts sur les politiques de l'emploi, bah, lui, il va bénéficier du même budget que l'année dernière, alors que le gouvernement voulait réduire ce budget. Donc en fait, il n'y a pas de choix politique, c'est vraiment très frustre.
Mais j'entends qu'avec la loi spéciale, on arrive à un déficit moindre qu'avec tout ce qui a été écrit là, aujourd'hui au 5
Alors non, parce qu'une loi spéciale ce n'est pas un budget qui peut tenir toute l'année parce que vous avez des problèmes, par exemple vous avez un avancement de carrière des fonctionnaires qui fait que normalement, même si leur rémunération est gelée, à la fin de l'année il faut quand même les augmenter puisqu'ils ont pris du grade et donc ça c'est très difficile à financer. Donc en fait c'est un budget temporaire qui ne permet pas de se passer d'un budget, d'autant que dans la loi spéciale, je rappelle que du côté des impôts on ne peut voter aucun impôt nouveau. Et tous les impôts exceptionnels de cette année, par exemple la fameuse surtaxe d'impôt sur les sociétés, 8 milliards d'euros cette année, ne sera pas reconduite dans le cadre d'une loi spéciale. Donc vous perdez déjà 8 milliards d'euros du côté des impôts. C'est pour ça que certains à droite se disent mais attendez, la loi spéciale c'est formidable, ça nous fait faire plein d'économies et on n'aura aucun impôt supplémentaire. Mais sauf que pour les déficits, c'est pas forcément très bon et ce n'est pas tenable sur l'ensemble de l'année de faire cette espèce de coup de rabot généralisé, d'avoir aucun choix politique. Voilà, c'est pour ça que cette loi spéciale est très compliquée et heureusement, et donc, on a sécurisé un budget de la Sécurité sociale qui fait que les dépenses sociales, qui sont celles qui dérivent le plus, sont à peu près contenues, même si le déficit de la Sécurité sociale reste très très important.
Donc on n'arrêtera pas la conversation après ce débat, on la reprendra en février, en janvier, on sait ça?
Alors oui, ça va être repris en janvier. Le Premier ministre a annoncé là dès lundi des consultations en bilatéral avec chaque parti et l'idée c'est d'arriver sur une copie négociée avec tous les partis qui peuvent assumer un budget à l'Assemblée nationale. Cette fois, le Sénat en quelque sorte, avec la commission mixte paritaire qui a échoué, renoncer à exercer de l'influence, puisqu'il faut maintenant que ça soit validé uniquement en dernière lecture par l'Assemblée. Et donc, le gouvernement espère un accord de non-censure et donc pouvoir faire passer un budget.
Il y a un paradoxe quand même cette semaine, c'est que donc on voit bien qu'il y a cette instabilité, on voit bien qu'on n'y arrive pas, et cependant l'INSEE nous a dit l'économie française, Léo, elle est résiliente. Oui. Est-ce que ça vous a étonné? On a l'impression que, rappelez-nous les chiffres, on a l'impression que finalement tout le monde s'y habitue.
Il y aurait un acquis de croissance à l'été 2026 de 1%. Ce qui est vraiment bon.
C'est-à-dire que si
bon
on fait 0% de croissance tous les autres trimestres, on aura 1% de croissance sur l'année.
On a déjà ça, c'est mieux que l'Allemagne. De toute façon, la France, la conjoncture française est meilleure que l'allemande depuis au moins 3 ans. Ça, c'est sûr. Et même le climat des affaires, cette semaine, s'est avéré être revenu au niveau de juin 2024, c'est-à-dire avant la dissolution. Et c'est là qu'on voit quelque part à quel point la stabilité politique est importante, en particulier pour la conjoncture française. Alors, on ne peut pas se contenter d'un pour cent, quand même. Hein. On ne va pas dire que c'est très bon. De l'autre côté, il faut aussi dire que, bien sûr, stabilité politique, c'est ce qu'on vient de dire, ça veut dire croissance de la dette, et qu'une partie de l'économie française reste trop financé par la dette, aussi la consommation des ménages.
Et ça, l'Allemagne, Berlin, regarde ça d'un mauvais œil, par exemple.
Alors, je crois que...
Vous avez d'autres choses à fêter.
Berlin, autant que d'autres partenaires européens, tout comme les investisseurs, l'enseignement de 2025, c'est que juste, nous, on espère juste la stabilité politique, on est déjà content si on a ça. C'est aussi le message, même des dégradations de la note française souveraine cette année en 2025, c'est que on ne croit plus vraiment en fait à l'assainissement en France, à un assainissement franc.
Rapide.
Ça viendra pas probablement du politique. C'est pas venu dans l'ère Macron quand les temps conjoncturellement étaient bons. C'est pas venu quand ils étaient mauvais. Ça vient jamais.
Marc Vigneault et Léo Klim, ça vient jamais Léo, je vous trouve dur, on va voir, on peut espérer en cette fin d'année quelque chose de meilleur pour 2026. Ils ont fait le débat, on n'arrête pas l'écho.
Real decreto ley para la ampliación de derechos de industrialización.
Unemployment and lower job
creation.
L'économie comme elle se passe ailleurs, ce matin, nous partons en Israël pour une histoire économico-politique.
לכם אזרחי ישראל היקרים היום אישרתי את עסקת הגז הגדולה בתולדות ישראל.
C'est le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui annonce le plus grand accord gazier de l'histoire du pays. Accord historique, dit-il. Il vient de donner son feu vert. Et qui est l'acheteur de ce gaz israélien? C'est l'Égypte. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes correspondant de RFI en Israël et pour France Inter, vous allez nous raconter les dessous de ce contrat à 30 milliards qui fait d'Israël une puissance énergétique régionale, mais dont le Premier ministre Netanyahou n'a longtemps pas voulu.
Oui, ce gaz est en provenance du gigantesque gisement de Léviathan, du nom du célèbre monstre marin biblique, cela ne s'invente pas. Alors, si Benjamin Netanyahou célèbre une victoire économique, il faut rappeler que cet accord a été obtenu sous une intense pression américaine, notamment de l'administration Trump et de son envoyé Chris Wright, qui avait annulé une visite prévue en Israël face aux hésitations du gouvernement. Sur le plan strictement économique, les chiffres donnent le tournis. L'accord avec le géant américain Chevron et l'israélien NewMed porte sur 30 milliards d'euros. Donc, pour les finances publiques israéliennes, c'est une véritable manne. Environ 15 milliards d'euros de taxes et de redevances qui devrait entrer dans les caisses de l'État au fil des années. Le ministre de l'Énergie, Eli Cohen, assure d'ailleurs avoir profité de ces délais de négociation pour garantir des prix stables et préférentiels pour le consommateur israélien, et cela pour tenter d'apaiser les craintes domestiques sur le coût de l'électricité. Alors, reste que le projet de gazoduc terrestre long de 65 km reliant les deux pays, qui a été approuvé en 2023, accuse aujourd'hui un important retard, de sorte que sa construction ne devrait pas être achevée avant 2029.
L'histoire est donc économique et politique. Dans cet accord, Michel, on trouve la compagnie américaine Chevron et la main de Donald Trump.
C'est effectivement l'épilogue d'un long bras de fer, non seulement commercial, mais aussi diplomatique. Le tout mené par Donald Trump en personne, qui va d'ailleurs présider probablement la signature officielle dans sa résidence de Mar-a-Lago la semaine prochaine. Alors, au-delà des milliards, Alexandra, c'est la dimension stratégique qui prime. Benjamin Netanyahou a évoqué des intérêts vitaux et sécuritaires qu'il ne pouvait détailler. Mais le message est clair, le gaz est devenu le ciment des relations avec le Caire. L'Égypte réagit en mettant un peu d'eau dans le gaz, pardonnez ce cliché, mais le pays traverse une crise énergétique et utilisera le gaz pour sa propre consommation et aussi pour le liquéfier et l'exporter vers l'Europe. En validant ce contrat, Israël ne se contente plus d'être un fournisseur. Il s'ancre comme un hub énergétique indispensable en Méditerranée, reliant le Moyen-Orient à l'Occident. C'est une interdépendance qui, pour Washington, est la meilleure garantie de stabilité dans une région qui est toujours secouée par la guerre à Gaza.
Michel Paul, avec nous en direct de Jérusalem. – 9h36 sur France Inter, dans moins de 10 minutes, le directeur général de BPI France et notre invité, Nicolas Dufour, qu'on va parler de l'État-providence, on va parler d'industrie, de la concurrence américaine et chinoise. J'aimerais évoquer le dossier Chine avant cela. Le site échappe à la suspension, l'État dit qu'il va faire appel. En attendant, des centaines de millions de colis contenant du Made in China vont donc continuer à arriver dans nos boîtes aux lettres. Beaucoup de vêtements dans ce flot, ce qui, vous le savez, joue un rôle dans la fermeture des boutiques. Mais ces habits de fast et d'ultra fast fashion ont aussi des conséquences sur la filière de la collecte et du recyclage. Ces vêtements sont de moins en moins chers, ils sont aussi de moins en moins durables, ce qui bouscule l'équation économique du tri. Notre reporter nous emmène donc ce matin à Assigny, c'est à 15 km de Rennes. Annelle Verzeau a rendez-vous avec le directeur Pascal Milleville dans une des plus grandes usines de la coopérative Le Relais.
C'est impressionnant, hein, c'est un énorme hangar dans lequel il y a peut-être une cinquantaine de personnes qui sont en train de travailler. Les vêtements sont entassés dans des gros containers métalliques.
Voilà, le cœur de l'activité, c'est la partie tri. On va se mettre là en dessous, on sera plus à l'abri.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de passages en fait, il y a plein de personnes qui travaillent.
Alors sur le site d'Assigny, 145 plus 50 personnes qui sont dans les boutiques.
Et là, juste derrière nous, je vois une chaîne de tri, comme une usine quoi, avec des personnes qui sont en train de trier et un tapis roulant qui défile et sur lequel sont déposés les vêtements. Et hop, les personnes trient très rapidement.
Oui, sur le tapis, donc on a un rythme qui est imposé. Dans l'idée, c'est d'orienter les vêtements en fonction de la qualité, pour effectivement donner la meilleure vie possible et la meilleure seconde vie possible aux vêtements qu'on a entre les mains. Donc là, typiquement, si ce n'est pas réutilisable en tant que vêtement, on va l'orienter vers le recyclage matière. Ça peut être dans des fibres pour l'isolant, ça peut être des fibres également pour alimenter l'industrie automobile, etc. Les volumes se sont développés de plus en plus. Nous, l'année dernière, on a pris 500 tonnes de plus sans avoir un équipement de collecte plus important. Tout le monde déborde de partout. Les associations n'en peuvent plus. Nous, on n'en peut plus parce qu'on a effectivement de très gros volumes. On a de plus en plus de produits qui sont en matière polyester, matière synthétique. Ils sont très, très compliqués à recycler. Du coup, nous, on a un surplus de collecte qui pèse énormément actuellement parce que c'est des produits sur lesquels on n'a pas de débouchés rentables. On perd de l'argent chaque fois qu'on sert une tonne qu'on n'a pas traitée en tri. Et ça, ce n'est pas normal. La fast fashion, l'ultra fast fashion a effectivement amplifié le phénomène de fait de la qualité qui baisse. Et donc, en fait, on a une économie qui est en train de se déstabiliser. Et à un moment, il faut pouvoir accompagner financièrement le traitement de ces produits pour nous aider à garantir la pérennité de l'activité, mais aussi à développer.
Le relais est financé par les marques de prêt-à-porter. Pour chaque article neuf vendu, elles versent en moyenne 1 centime d'euro aux entreprises de collecte et de recyclage. Mais la filière est en crise depuis plusieurs mois. Le 15 juillet, pour se faire entendre, le relais a éparpillé plusieurs tonnes de vêtements sur les parkings des magasins Decathlon ou Kiabi, comme à Oudemont, en Meurthe-et-Moselle, ou à Abbeville, dans la Somme. La coopérative a aussi suspendu, symboliquement, pendant une dizaine de jours, la collecte de textiles et de chaussures dans leurs 22 309 conteneurs de France. Dans la foulée de cette opération, l'État a débloqué une aide exceptionnelle de 49 millions d'euros pour la filière. Mais malgré ce soutien, le relais dit ne plus pouvoir maintenir son équilibre financier. Le réseau dit travailler à perte depuis 6 mois. Conséquence, la SCOP a mis fin à plusieurs partenariats avec des entreprises et des associations de collecte. Exemple avec Monde Solidaire à La Flèche, dans la Sarthe. Je me rends sur place, dans une zone artisanale. Ici, l'ébène disponible pour le don se raréfie. L'association se concentre désormais sur son autre activité, la réception et la revente de vêtements de seconde main.
Nous étions dans le tri des armoires.
Bonjour. Vous avez ramené un sac monsieur et un sac madame,
non,
c'est ça?
Un sac été et un sac hiver.
Voilà, c'est un pull. Il est joli.
Mais il est joli.
Alors là, qu'est-ce que c'est?
Des soupules à col roulé.
C'est sympa ça, vous mettez plus.
Bon non, parce que maintenant j'ai truc autour du cou, j'ai un peu de mal, ouais.
Yves qui est en train de faire le tri avec son petit poste de radio à côté. Il étale les vêtements sur la table, vérifie. Vous regardez si tous les boutons sont là, là c'est un chemisier.
Oui, si c'est pas déchiré ou taché. Comme ça. C'est parfait tout ça.
Et bon, eh bien voilà, messieurs, dames. Ben, je vous souhaite une bonne journée à vous.
Au revoir, messieurs, dames. Camille Amand, vous êtes la directrice de l'association Monde Solidaire à La Flèche. Il y a combien de salariés ici?
Alors maintenant, on n'est plus que 12.
Vous avez dû licencier combien de personnes?
J'ai licencié 3 personnes. Au mois d'août, on a eu un choc terrible qui a été l'annonce de l'arrêt de l'activité du relais. Pour nous, c'était un partenaire. historique depuis 14 ans. On collectait sur les fameux conteneurs blancs, le relais. Et ensuite, on vendait ce textile au centre de tri. On collectait par semaine 14 tonnes sur la moitié du département. C'est colossal. Ce qui aussi arrive en direct au sein de notre association en don, tout ce qui n'est pas revendable, en bon état, réemployable, il n'y a pas de débouché, pas de solution. Donc là, c'était la catastrophe. Et une mise en danger de notre association, parce qu'on en était là. Hein. Nous, le textile, c'est la majeure partie de notre activité. S'il n'y a plus de textile, il n'y a plus d'association.
C'est quoi là ces sacs bleus, Camille? C'est des sacs poubelles remplis de vêtements, on dirait.
Il y a une trentaine de sacs de 100 litres remplis de vêtements qui ont subi deux tris chez nous. Et malheureusement, ils ne sont pas réemployables. Et comme il n'y a plus de filière de recyclage accessible, ces sacs partent à la poubelle. Ceux-là seront incinérés et peuvent être enfouis sur d'autres territoires. Effectivement, ça peut être également enfoui. Et malheureusement, la majeure partie sont faits en polyester ou en matière... Voilà, base synthétique, tout à fait. Oui.
Plastique, quoi.
Exactement. Et on sait ce que ça donne et le temps que ça met à se dégrader et ce que ça donne pour notre écosystème. Oui. C'est catastrophique.
En 2024, 290 000 tonnes de textiles ont été collectées en France. Ça représente en moyenne un peu plus de 4 kilos par habitant. Comment faire face à ce flot ? Clément Sulé est directrice secteur textile au sein du cabinet de conseil Deloitte. Elle a participé à un rapport commandé par l'éco-organisme ReFashion. Pour elle, la solution doit avant tout se faire à l'échelle européenne.
Il faut construire en Europe une industrie du tri et du recyclage qui soit performante. Et ça pour des questions de responsabilité sociale et environnementale, mais aussi dans une logique de souveraineté et de sécurisation de l'accès aux ressources pour nos industries. On ne peut pas dépendre uniquement de l'Asie pour acheter nos matières, que ce soit des matières vierges ou des matières recyclées. On voit depuis quelque temps vraiment une volonté de développer cette filière à l'échelle européenne. Il y a d'autres pays qui sont très actifs sur le sujet. C'est le cas de la Suède et la Finlande qui ont des projets de recyclage chimique et aussi de tri automatisé assez avancé. On a des solutions opérationnelles. Il faut maintenant trouver des investissements importants pour permettre un déploiement massif de ces lignes de recyclage. Et donc tout ce travail-là, il repose évidemment sur la sensibilisation des marques, acheter davantage de matières recyclées, mais aussi des clients qui peuvent être moteurs dans ce geste d'achat.
L'année dernière, en France, 3,5 milliards de vêtements neufs ont été mis en vente, soit 850 000 tonnes de produits. Pour les ONG, soulager la filière de la fin de vie du textile doit d'abord passer par une déconsommation et donc par une plus forte réglementation du marché du prêt-à-porter. Flore Berlingen est coordinatrice de En mode climat, un collectif de 582 acteurs du textile qui milite pour que la mode réduise son impact environnemental.
Pour arriver à agir sur la question des volumes de vêtements mis en marché, il faut réglementer le secteur, notamment d'agir sur les pratiques commerciales qui poussent à la surconsommation. Les marques de la fast fashion et de l'ultra fast fashion, elles ont recours à tout un tas de techniques pour pousser les consommateurs à l'achat, des pratiques publicitaires, des pratiques commerciales de promotion très agressives, des incitations au crédit, etc. Voilà, nous, c'est l'angle d'attaque que l'on propose, réglementer. Dans certains cas, ça pourrait être interdit. La loi anti-fast fashion, par exemple, envisage une interdiction stricte de publicité ciblée ou généralisée. Il est aussi nécessaire de travailler sur les conditions sociales et environnementales de production, en fixant par exemple des conditions d'entrée sur le marché européen. C'est-à-dire qu'il faudrait satisfaire des critères sociaux ou environnementaux pour pouvoir être admis sur le marché européen. Pour l'instant, ça n'existe pas, mais ça pourrait entrer en vigueur dans les prochaines années grâce à des textes européens qui sont en discussion.
Folle quantité, mauvaise qualité, quand la filière du recyclage textile fait une indigestion de vêtements. C'était le reportage d'Anaël Verzo.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Le directeur général de BPI France est l'invité d'On n'arrête pas l'écho. Bonjour et bienvenue Nicolas Dufourcq. BPI France, c'est la banque publique d'investissement, moitié État, moitié Caisse des dépôts. C'est de l'argent public pour soutenir les entreprises et surtout l'industrie. Alors, Chine, Temu, des vêtements, des objets, des voitures électriques, de l'acier, vous dites régulièrement que la Chine est beaucoup plus agressive aujourd'hui que ce que vous pouviez imaginer il y a deux ans.
En effet. On a complètement sous-estimé ce qui allait nous arriver, qui est un tsunami, littéralement. Hein. Et le reportage est très intéressant, hein, parce qu'il montre effectivement que depuis une trentaine de mois, en fait, Temu, Shine et les autres, ainsi que tous les logisticiens qui sont derrière, hein, les logisticiens chinois, avec des entrepôts en Europe de consignation dans lesquels il y a énormément de salariés chinois, parfois d'ailleurs essentiellement clandestins, comme l'ont montré les contrôles de police cette semaine en banlieue parisienne, hein, sur Gofo. Personne n'avait vu la chose venir, hein, et personne n'avait vu la puissance financière de ces groupes-là, puisque un groupe comme Temu, typiquement Pinduoduo, hein, a aujourd'hui de côté 55 milliards de dollars de liquidités. Donc ils peuvent tenir des très grosses amendes, il n'y a aucun problème. La seule solution pour reprendre un peu notre souffle, reprendre haleine, hein, dans cette affaire, où on a été en fait complètement choqués, puisque typiquement, Gofo a 30% de part de marché sur le dernier kilomètre à Bordeaux. Hein.
Ouais, ouais.
Vous vous rendez compte ?
En très peu de mois. Hein. C'est le concurrent de la Poste, le patron de la Poste s'inquiétait de ça.
Invraisemblable. Ouais. Donc la seule solution, c'est de remonter, mais très fort, les barrières douanières, non pas sur les colis, mais sur les produits qu'il y a dans les colis.
Alors justement, on a il y a 4 milliards et demi de petits colis qui arrivent en Europe chaque année, 90% proviennent de Chine. On a cette taxe de 3 euros qui va arriver en juillet 2026 par catégorie de produits. On a une taxe française qui va peut-être être votée un jour. Ce ne sont pas des droits de douane façon Trump, mais c'est quand même du protectionnisme. Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'il faut aller encore plus loin, il faut que l'Europe et la France montent encore le degré de protection, le mur.
Beaucoup plus loin, bien sûr, puisque qu'est-ce que font ces grands groupes qui sont ultra intelligents, hein, ils méritent le respect, honnêtement. Hein. C'est qu'ils installent des entrepôts en Pologne, en Hongrie, en Belgique, et donc ils font du fret, en gros, au prix usine vers la Pologne, la Hongrie, la Belgique, ils mettent en paquet là-bas, et comme ça ils échappent à la taxe sur les colis.
Donc il faut faire, quand vous dites qu'il faut monter le mur, il faut faire quoi ? Il faut mettre des droits de douane ?
Il faut mettre des droits de 80% sur les produits textiles chinois.
Ok, donc là on n'est pas du tout au niveau, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Pas du tout au niveau. Autre politique pour préserver nos industriels, c'est à Bruxelles le grand assouplissement des normes. L'exemple le plus parlant, c'est 2035. Mardi, Bruxelles a renoncé à imposer aux constructeurs de passer au tout électrique à cette date-là. Alors, vous êtes particulièrement intéressant que vous siégez au conseil d'administration de Stellantis. Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que ça va tout changer ?
Non, ça ne va pas tout changer, c'est encore insuffisant. En particulier parce que la Commission n'a pas pris position sur les véhicules commerciaux, ce qu'on appelle les véhicules commerciaux légers, hein, qui sont aujourd'hui essentiellement thermiques et dont les clients, le marché final, résistent énormément au passage à l'électrique. Hein. Et donc le risque pour tous les constructeurs européens, et particulièrement les constructeurs italo-français et français comme Renault, qui sont très très forts sur le véhicule commercial léger, c'est des amendes très significatives. Parce que on garderait encore une empreinte CO2 sur ces véhicules-là. D'ailleurs, ça rippe avec notre sujet précédent, puisqu'il s'agit bien du dernier kilomètre, hein, de livraison dans le retail. Donc ça, c'est une bataille qui continue de devoir être livrée. Pour le reste, l'assouplissement de 100 à 90%, bon, il est bienvenu.
100%, ça veut dire tout électrique. Et là, la nouvelle norme, c'est à partir de 2035, 90% de vente de moteurs non thermiques.
Absolument. Mais ça, c'est juste du réel. Par rapport au fait que les clients européens nous ont fait passer de manière extraordinairement claire et vocale le message qu'ils n'avaient pas envie d'acheter des véhicules électriques.
Bah parce que les constructeurs les vendent trop cher.
Bah ils sont trop chers, mais ils coûtent très cher. Les constructeurs ne sont pas payés pour vendre à perte. Déjà aujourd'hui, honnêtement, une très grande partie des véhicules électriques vendus en Europe sont vendus quasiment à perte.
Donc, 2035, première étape, vous dites, mais pas suffisant. Dernière piste que je voudrais évoquer avec vous pour lutter contre ce que vous qualifiez de tsunami venu de Chine, c'est la piste développée par Emmanuel Macron dans sa tribune mardi au Financial Times. Le président de la République dit qu'il faut demander aux Chinois d'investir chez nous. Alors, quand on se souvient de ce qu'on a infligé à Huawei, c'est un changement de doctrine radical.
Non, bien sûr, mais c'est l'idée, moi je la pousse depuis des années, hein, qui est de dire tout ce que les Chinois nous ont fait, il faut le leur faire. Hein, et donc il faut qu'ils créent des emplois en Europe, il faut qu'ils fassent des JV 50-50, il faut qu'ils
fassent des joint ventures, des
entreprises à 50-50, il faut qu'ils recrutent des Européens, et il faut qu'il y ait du transfert de technologie, etc., etc. Bon, on en est extrêmement loin.
Oui, j'allais vous demander.
Extrêmement loin.
Vous les voyez souvent ?
Oui, bien entendu. Oui. On négocie avec eux, surtout pour le faire. Hein.
Oui.
Et le résultat des courses, c'est que les transferts de technologie, il n'en est pas question. Les recrutements de salariés européens, il n'en est pratiquement pas question. Sur les nouvelles technologies, ils préfèrent avoir des salariés chinois.
Hein, c'est ce qui se passe qui en Hongrie, en Espagne, c'est ça, quand absolument. Ils mettent des usines.
Absolument. Ouais. Et qui savent faire fonctionner les machines chinoises, dont les modes d'emploi sont chinois, etc. Mais vous savez, quand les Chinois nous ont acheté, au fond, après l'avoir détruite, notre industrie textile, ils nous ont acheté toutes nos machines du nord de la France, qui étaient des machines ultra complexes. Il n'y avait que les ingénieurs français pour savoir les faire fonctionner. Ils les ont achetées aussi. Les Français ont terminé leur carrière en Chine. Donc c'est ça qui se passe maintenant.
Mais donc, voilà. Ce qui est très inquiétant, ce que façon, vous dites, c'est que les Chinois vous disent qu'ils ne veulent pas venir investir en Europe.
Si, ils disent...
leurs ouvriers, avec leurs machines...
Et avec leur méthode, en contrôlant absolument tout. Et donc absolument tout. Et surtout, ils rajoutent, vous savez, l'Europe, c'est pas la France. Et la France ne sera pas le pays préféré de nos investissements en Europe parce que vous travaillez pas assez, parce que vous êtes conflictuel, querelleur, et parce que...
Et vous leur dites que c'est faux, bien sûr.
Comment ? Attendez, il n'y a pas eu une seule grève dans le secteur industriel français depuis 20 ans. Vous avez une image totalement erronée de la France. Oui, d'accord, mais bon, on investira en Hongrie, en Espagne.
Mais il n'y aura pas de transfert de technologie. Donc, quelque part, finalement, est-ce que cette solution est vraiment une bonne solution ?
C'est juste pour dire que la vraie vie de l'économie... dans la géopolitique d'aujourd'hui, c'est la violence.
Et ça n'est pas réjouissant. Je vous amène, donc vous parliez des comptes publics. Je voudrais évoquer avec vous les derniers chiffres de l'INSEE sur la dette. Près de 3500 milliards de dettes, plus de 117% du PIB. Le titre de votre livre, c'est « La dette sociale en France, 1974-2024 », publié chez Odile Jacob. Est-ce que votre thèse, c'est que l'État-providence est responsable du dérapage des comptes publics français?
C'est pas l'État-providence en soi, parce que l'État-providence, c'est super. C'est notre civilisation, c'est notre culture, c'est notre mode de vie. Et ce qui est extrêmement contestable, c'est qu'on soit pas fichu de se mettre autour de la table pour l'équilibrer. Ça devrait être totalement transpartisan et apolitique, exactement comme la nature dans l'écologie. Mmh. Et il a été politisé. Il a été démagogisé, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il est devenu l'instrument de querelle politique qui fait que d'élection en élection, on a fait croire aux Français que l'argent poussait dans les arbres. Et ça, c'est le malheur français, en réalité. C'est d'abord un malaise, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit aux Français que la dette servait à financer des prestations du quotidien, c'est-à-dire les factures d'électricité, d'eau, de transport, de ceux qui bénéficient des prestations sociales, donc les retraités, ceux qui reçoivent...
Mais pas à 100%, Nicolas
Dufour. Non, mais deux tiers. Les 2000 milliards sur les 3500 milliards, c'est des prestations sociales.
Mais tout n'est pas financé par la dette.
10% des prestations 10%. Sociales sont financées par la dette. Oui, mais vous rendez compte. Ça veut dire que tous les soirs, vous faites le compte de ce que l'économie a produit et de ce que l'État-providence a dépensé. L'État-providence a dépensé 10% de plus que ce que l'économie a produit tous les soirs.
Mais ça fait de la consommation. Il y a un gain à cette dépense.
En réalité, non. L'effet multiplicateur dit keynésien de tous ces plans de relance, de tous ces déficits accumulés depuis des années, il n'est pas là. Et là, une des raisons pour lesquelles il n'est pas là, c'est qu'on a aussi complètement, je pense, sous-estimé le fait que la société française vieillissait beaucoup et que les Français épargnent énormément. Donc en fait cette relance, elle ne va pas à la consommation. D'ailleurs, ça se voit bien dans les recettes de TVA. Elle va dans l'épargne. Laquelle épargne, elle sert à quoi ? À financer la dette. Donc on marche totalement sur la tête.
On marche sur la tête. Alors, vous vous dites, on marche sur la tête, il faudrait retailler l'État-providence quand même. C'est ce que, voilà. Est-ce qu'on pourrait se poser une autre question ? Vous êtes la BPI France, vous êtes un instrument de la politique pro-business. Vous existez depuis 13 ans. Quand on regarde la croissance, la dette justement, et même le chômage, est-ce qu'on peut envisager qu'après 10 ans d'expérience, 12 ans d'expérience, la politique de l'offre, ça ne marche pas tant que ça ?
Ah, c'est l'inverse. C'est qu'on n'en fait pas assez. Une raison pour laquelle j'écris ce livre, c'est que je dis qu'on n'y arrivera jamais si on permet au cheval de l'État-providence, parce qu'il est drogué à la poudre blanche de la dette, de courir toujours devant l'économie. Parce que l'économie, on la fouette avec la BPI, les banques, le financement de l'innovation, on donne leur chance aux entrepreneurs, mais elle court jamais aussi vite que l'État-providence. Et la différence entre les deux, c'est la dette.
Et là, vous couperiez quoi ? Si je vous entends, vous coupez quoi ? Si je vous lis, surtout, vous coupez... C'est les retraités que vous voulez...
Écoutez, les deux premiers postes, c'est les retraites et la maladie.
Oui.
Les retraites et la maladie ont embarqué pratiquement 100 milliards par an de dépenses supplémentaires depuis 2020.
Mais qu'est-ce que vous voulez couper ? La maladie ?
Attendez. Donc, sur les retraites, il faut évidemment allonger la vie professionnelle. C'est inévitable. Voilà. Bon. Il n'y a aucune raison que la France ne soit pas comme la Belgique. La Belgique, elle n'a jamais bougé son âge, qui est 65 ans, depuis 1945. Elle n'a pas fait l'immense erreur de la retraite à 60 ans, que nos petits-enfants paieront. Et elle est en train de monter à 67 ans. Et puis c'est tout. De toute façon, entre 60 et 70 ans, on est de plus en plus en forme, quoi. Et on a démarré beaucoup plus tard notre vie professionnelle. Donc le recul de l'âge de la retraite, il est absolument fatal. C'est le point GPS inscrit clair, net. Et la maladie... Alors, et par ailleurs, les retraites françaises sont plus généreuses de 20% que les retraites allemandes, par exemple. Donc il faut les désindexer pendant plusieurs années.
Vous dites,
tout ça fait tomber les gouvernements, je le sais.
Voilà, vous dites que c'est la responsabilité des politiques. Il y a une responsabilité des élites.
C'est aussi la conséquence de ce qu'on a accepté du jeu démocratique français autour de l'État-providence, parce qu'on a refusé la règle d'or. La règle d'or de l'équilibre des finances sociales, qui était la règle fondamentale morale des fondateurs. On l'a oubliée, c'est ce que je raconte dans mon livre.
La dette sociale de la France, 1974-2024, c'est publié chez Odile Jacob. Merci Nicolas Dufour d'avoir accepté notre invitation.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Pour cette dernière chronique, ma vie au boulot de l'année, Sandrine Foulon, vous aviez envie de nous parler du quit talking. Un phénomène qui consiste à se filmer en train de démissionner et à poster ce jour de libération intense sur TikTok. La tendance est-elle si nouvelle que ça ?
Ce qui est nouveau, c'est l'emballage. Une tendance réussie est une tendance bien labellisée. Quit talking, c'est donc la contraction de quit, démissionner en bon français, et de TikTok, car ces moments jubilatoires sont postés sur les réseaux. Ça a commencé en 2021. Plusieurs salariés d'un McDo au Royaume-Uni rendent leur tablier. L'un d'eux filme la scène, la séquence devient viral. Depuis, ça s'est multiplié comme des petits pains. Le quit talking, ce sont surtout des jeunes qui sautent de joie dans l'open space, dansent dans la rue et crient haut et fort dans toutes les langues que c'est le plus beau jour de leur vie. Ils en ont fini avec ce foutu job. Ce qui est nouveau, évidemment, c'est l'instantanéité des réseaux. Ce qui l'est moins, c'est ce qu'en disent les experts. Le quit talking dénoterait une prise de distance de la génération Z avec le travail. Là, je dois dire, Alexandra, que c'est ce qu'on affirmait déjà pour la génération X, la mienne, née entre 1965 et 1980. En fait, on peut remonter jusqu'à Socrate, on trouvera toujours quelqu'un pour regretter que les jeunes n'aient plus le même rapport à l'effort. Ce qui n'est pas neuf non plus, ce sont les risques juridiques liés au quit talking. Se filmer en train de démissionner, exprimer son ressentiment, mentionner le nom de la boîte, ça fait partie de la liberté d'expression du salarié. Mais attention aux dérapages, injures et diffamations, ça peut conduire à des dommages et intérêts réclamés par l'employeur. Et sans aller jusque-là, on le répète souvent, les traces numériques sont difficiles à enlever. Les recruteurs, les futurs employeurs ont eux aussi des téléphones.
Bon alors, elle n'est peut-être pas vraiment nouvelle cette tendance, Sandrine, mais dites-nous, est-ce que le quit talking est un phénomène massif chez les jeunes ?
Non, ni chez les jeunes, ni chez les plus vieux. La période n'est plus du tout à la grande démission ou aux démissions tout court. Au deuxième trimestre 2025, elles étaient en baisse de 3%. Depuis la fin de la pandémie, leur nombre ne fait que chuter. Et ça devrait continuer. Les licenciements restent le premier mode de rupture de contrat. Michel Picon, le président de l'UDEP, le syndicat patronal des artisans et commerçants, rappelle que toutes les semaines, ce sont 1500 emplois qui sont supprimés dans les petites boîtes. Là, il ne s'agit pas de quit talking, ni même de quiet quitting, cette autre tendance qui consiste à se mettre en retrait et à en faire le moins possible au boulot. On peut parler tout simplement de licenciement à bas bruit.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.